Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Jonathan Noble de Swello. Swello, c'est un outil, un logiciel pour planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont Twitter, ils ont Instagram, ils ont Facebook, etc. C'est un site qu'il a démarré à 15 ans. À l'époque, ça s'appelait ClockTweet, donc une horloge plus Twitter, qui a été depuis renommée, bien sûr, puisqu'ils ont ajouté différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plateforme, c'est une équipe de 9 personnes avec 50 000 utilisateurs, 3,5 millions de messages programmés et il a un grand nombre de grands groupes en clients, notamment groupe Ionis, Crédit Agricole, Mairie de Metz, etc. Donc, c'est un gars qui est parti de zéro à 15 ans, qui avait cette idée au collège de créer un outil. Aujourd'hui, cet outil, il le vend à des grands groupes. Je me suis demandé comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il a transformé ce projet perso, fondamentalement, ce projet de collégien en plus, en un SaaS qui va être vendu à des grands groupes. Je voulais comprendre comment est-ce qu'il a transformé ce produit qui était à l'origine gratuit en un produit payant. Je voulais comprendre son processus de vente, comment est-ce qu'il va faire pour trouver les besoins de ses clients, comment est-ce qu'il va faire pour identifier ses avantages par rapport à des gros concurrents anglophones sur ce marché de la programmation sur les sociaux et comment est-ce qu'il va s'organiser concrètement pour démarcher ses clients, le processus commercial, comment il recrute ses commerciaux, comment il décroche des rendez-vous, etc. Finalement, on parle de la question de l'équipe, comment est-ce qu'il gère son équipe, le choix d'être dans des bureaux plutôt qu'à distance, la manière dont ils vont gérer des réunions de 30 minutes, et c'est la seule réunion chaque semaine, c'est une réunion de 30 minutes, comment est-ce qu'il va former de nouvelles personnes, comment est-ce qu'il va onboarder de nouveaux employés. C'est tous les sujets dont je vais parler aujourd'hui dans ma conversation avec Jonathan Noble de Swello. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est que j'ai compris que ta boîte, tu l'as créée à l'origine, c'était un projet perso que tu avais monté, tu étais collégien, tu avais envie de faire des tweets. Tu as monté ce projet un peu tout seul. Et aujourd'hui, c'est une boîte que tu vends pas mal en B2B, tu la vends à des grosses entreprises, tu vas aller faire des meetings de vente, tu montes à Paris faire des trucs. La question entre les deux, c'est, OK, il y a une chose entre je suis collégien et j'ai besoin de programmer des tweets pendant que je suis au collège, et j'ai trouvé une solution à un besoin qu'ont des grosses entreprises. Et je serais intéressé de comprendre quel était ton processus, en fait, comment est-ce que tu as transformé ce truc, comment est-ce que tu as trouvé ce product market fit. D'un coup, tu avais une solution qui allait parler à des entreprises, là où en fait, c'est un truc très B2C, et on imagine qu'un truc de gestion de réseaux sociaux uniquement B2C qui s'adresse aux collégiens, c'est difficile d'en faire un business. Donc, il fallait vraiment faire cette transition. Je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu l'as fait, et à quel moment est-ce que tu as trouvé la manière de vendre ce truc-là.
Bah écoute, quand j'ai commencé du coup, quand j'avais 15 ans, le projet initialement, c'était pour moi et c'était pour mon CV. Enfin, ça a été juste ensuite pour mon CV. Pourquoi ? Parce que dès la première semaine, il y a un grand groupe qui a commencé à utiliser la plateforme et c'était le journal L'Équipe. Puis le temps a continué, hein, j'ai fait mon lycée. Je suis arrivé en DUT et en fait en DUT ça faisait donc déjà 3 ou 4 ans, c'était toujours un projet, la boîte n'était pas montée, c'était toujours en gratuit, mais il y avait plus déjà de 15 000 je crois utilisateurs, dont pas mal de grands groupes. On avait toutes les chaînes de TNT notamment, et j'arrive à la fin de mon DUT. Moi j'étais en alternance chez tuto.com, donc j'avais commencé déjà à toucher un peu le monde du travail, de l'entrepreneuriat, plus mon écosystème familial m'a poussé aussi à un moment donné à me poser la question, qu'est-ce que je fais, puisque j'ai des frères, enfin mes parents, mes frères et sœurs entreprennent tous dans le web souvent, enfin dans le marketing, dans le web souvent. Et puis donc j'arrive fin du DUT et je me dis, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je continue et je réussis entre guillemets, hein, comme je le pensais moi, c'est-à-dire bac plus 5, ingénieur, etc., etc. Ou alors, est-ce que j'arrête mes études parce que j'ai mon DUT et c'est très bien. Je monte la boîte pour de vrai, mais ça veut dire aussi trouver un modèle économique. Et on voit ce que ça donne. Et au pire, je continuerai mes études si vraiment ça échoue. Et puis donc on arrive à ce moment-là où j'en parle à mes parents, j'en parle à mes proches, j'en parle à mon ancien patron du coup Nicolas, et tout le monde me dit, écoute, t'as 19 ans, franchement tente-le, au pire bah, tu reprends tes études et il n'y a pas trop de soucis. Du coup je me lance, et le jour où je le dis à mes parents, bah, j'arrête mes études, où ils me disent, bah, y a pas de problème, on va te soutenir comme on a fait avec ton frère, il n'y a pas de problème quoi. Il y a le meilleur ami de mon frère qui est développeur, qui m'envoie un mail et qui me dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider. Parce que pour remettre en situation, à l'époque, moi, j'étais tout seul sur le projet. Il y a eu en fait plusieurs périodes, mais au début, j'étais seul pendant un ou deux mois. Après, il y a quelqu'un qui s'appelle Lancelot, qui aujourd'hui est à la tête d'Ulysse.travel, qui a été avec moi pendant 2 ans, où il était développeur et moi, donc je suis web designer intégrateur. J'ai été tout seul après encore pendant quelques années, et arrive ce moment-là où je dis à mes parents, je m'arrête, et il y a Thibaut qui m'envoie un mail, qui lui est développeur et qui me dit, je peux venir t'aider pendant 2 semaines. Et au final, ça finit par, ça fait 5 ans qu'on est associés. Et on est là, on a un projet, ok, qui est cool, mais qui n'est pas encore une boîte, qui n'est pas encore une entreprise. Hein. C'est vraiment un projet avec une idée qui a fait déjà ses preuves, hein, parce qu'on avait beaucoup de grands groupes et d'utilisateurs. Et il faut qu'on monte un modèle économique. Comment on a fait ? Bah, c'est très simple. On a participé à un accélérateur d'entreprise, donc qui était à Toulon Var Technologies, à TVT. Et en fait, notre objectif de cet accélérateur, c'était d'entrer et d'avoir un modèle gratuit, de sortir et d'avoir un modèle freemium pour gagner de l'argent. Puisqu'après, à la suite de cet accélérateur, on a déposé la société le 29 février 2016. Et du coup, bah, la réflexion s'est faite pendant ces 4 mois. On s'est dit comment on va faire. On a regardé nos concurrents. On a regardé un petit peu nous ce qu'on voulait faire. Et c'est comme ça qu'on est passé sur un modèle freemium, modèle SaaS, Software as a Service, où on a différents abonnements allant à 0, 9, 29 et puis après plus en fonction des besoins. Mais ça a vraiment été ce moment-là, on a eu ce déclic-là où on s'est dit, on s'est dit qu'il fallait faire un modèle payant et c'était bizarre, enfin ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'était compliqué de vendre. C'est-à-dire que moi, ça faisait 5 ans que c'était gratuit, on n'a jamais mis de pub parce que je déteste la pub. Et là, en fait, il faut se mettre dans une logique où on va gagner de l'argent avec quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Et c'est vrai que c'était bon, maintenant tout va bien, mais au début c'était un peu compliqué de se dire qu'on allait gagner de l'argent grâce à ça. Et petite anecdote, parce qu'elle est très très drôle, le jour où on a mis en ligne notre modèle payant, on avait passé une nuit blanche, on l'a fait à 6h30 du mat, et là je dis à Thibaut, prends la carte, on fait un test pour voir si le module de paiement fonctionne, parce que si on fait ça et que le module de paiement fonctionne pas, ça sera compliqué. Et là, en fait, moi, dès qu'il y a un paiement, j'ai une notif. Et là, je reçois une notif, mais de 150 euros, alors que notre abonnement mensuel, parce que ça, c'était de l'annuel, notre abonnement mensuel, c'est genre 9 euros, quoi. Donc, je dis, Thibaut, franchement, t'as abusé. Enfin, je te dis de faire ça. Et en fait, pas du tout. C'est notre premier client à 6h, je crois, 48 ou 50 du matin, qui d'ailleurs était un investisseur marseillais, qui a acheté un abonnement, le premier abonnement de Swelo de toute notre vie, entre guillemets, quelques minutes après la mise en prod, quoi. Abonnement annuel, du coup, quoi. Et donc, voilà, bon, il y a eu ce petit déclic à ce moment-là. Au niveau de l'accélérateur, c'est là où on y réfléchit.
Parlons un peu de l'expérience d'être dans un accélérateur. Ça fait quoi un accélérateur ? Qu'est-ce qu'il te donne ? Qu'est-ce qu'il t'apprenne ? Comment ça fonctionne au quotidien ?
Alors déjà, pour aussi remettre le contexte, il faut bien faire la différence entre un incubateur et un accélérateur. À mes yeux, après je peux me tromper, mais pour moi, la différence, c'est qu'un incubateur, tu as des locaux là où tu te fais accélérer, où il y a des ateliers, etc. Nous, on était assez libres à ce niveau-là. On avait accès à un espace de coworking, mais la vie a fait que, donc Nicolas, chez qui j'étais web designer intégrateur en alternance, nous a gentiment dit, bah, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous, en fait. Vous pouvez monter la boîte dans les mêmes bureaux que nous. Et en termes d'expérience, c'était fou parce qu'il a vécu des choses fabuleuses, il a pu nous aider sur plein de points. Et du coup, après, l'accélérateur nous a apporté différentes choses. Déjà, un mentor extrêmement important. Alors, c'est une mentor, pour être plus précis, qui s'appelle Mathilde Lerouzic, qui est CEO de Helloker, qu'on connaissait avant, mais c'est elle qui nous a un peu poussé au début, qui nous a dit « Allez voir l'accélérateur, ça peut être sympa, etc. » Donc, c'est un mentor. C'est du réseau, puisque c'est à la fois du réseau au niveau de Toulon Var Technologies, réseau toulonnais, mais également réseau avec ceux qui sont fait accélérer avec nous et ceux qui vont se faire dans le futur accélérer, parce que nous, c'était la première saison. Également, des ateliers individuels et collectifs. Donc ça, c'était vraiment cool parce qu'on avait des ateliers collectifs où on voyait tout point par point et on prenait le temps sur des points sur lesquels on n'avait pas pris de temps avant, en fait. Ça nous a forcé à prendre ce temps et on voit qu'aujourd'hui que c'était hyper utile, qu'on ne prenait pas normalement. Et pareil avec les rendez-vous individuels, ça nous permettait de voir des experts de domaines qu'on avait choisis, hein, pour aller un peu plus loin. Enfin, notamment nous, c'était un peu plus juridique, etc., parce qu'on commençait à monter la boîte. Et également, faut pas le nier, il y avait un budget qui nous avait été attribué, qu'on a pu utiliser nous pour faire des tests dans de l'ads. Donc, dans du Facebook, Twitter, LinkedIn, AdWords, on a pu tester aussi Insta. Et donc, on avait un petit budget qu'on a pu tester pour lancer un peu le produit, justement, les premières ventes, voir si ça pouvait fonctionner. Donc, voilà, c'est vraiment un tout. Et également, mais ça, c'est pas forcément la promesse de base, mais c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous, comme on a fait des pitchs, donc ça fait partie de l'accélérateur, on a pu pitcher devant des investisseurs. Et derrière, quand on a souhaité lever des fonds et qu'on a fait notre premier pitch face à ces investisseurs, on a dit ah ouais, en fait on connaît déjà la moitié, quoi. Ça, c'était pas une surprise parce qu'ils nous avaient découvert lors de l'accélérateur.
L'accélérateur, il prend quoi en échange de tout ce qu'il t'apporte ? Ils ont des parts ? Comment ça marche ?
Alors ça va dépendre, hein, de chaque accélérateur, de chaque incubateur.
Dans
nous,
ton cas
dans notre cas, c'était une première saison. Donc après, je crois que ça a changé dans les saisons d'après. Mais nous, ils prenaient pas de parts. En fait, il y avait un coût lié au programme. Et si on rentrait dans certaines clauses au bout de X années, c'est pas qu'on remboursait le coût qu'on avait dépensé, mais on participait au programme d'après. Tu vois, on investissait, enfin, comme si c'était, bah, comme vous nous avez aidé, bah, on va également aider les boîtes que vous allez aider 4 ans ou 5 ans après, quoi. Donc, c'était vraiment la seule chose. Après, il n'y avait pas de part. Enfin, voilà, c'était assez sain et simple. C'était la première saison. Alors, ils se sont arrêtés, je crois qu'ils ont fait 5 saisons. Et après, ils sont arrêtés, ils sont passés sur d'autres modèles parce que TVT, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Hein, c'est pas juste un accélérateur. Mais à un moment, ils avaient fait vraiment plein de programmes, etc. Et je crois qu'ils ont arrêté au bout de la 5e saison. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était vraiment... on avait un budget qu'on pouvait dépenser donc dans ces ateliers collectifs, etc., dans des dépenses diverses, mais liées au projet et vraiment très définies. On pouvait pas vraiment... genre, on pouvait pas acheter un ordinateur, quoi. C'est vraiment très défini. Et nous, en échange, quelques années après, on aidait les nouveaux avec une sorte de remboursement de ce qu'on avait dépensé. Mais voilà, l'un dans l'autre, c'était comme ça, quoi.
Du coup, tu m'as dit que ces grands groupes, en fait, c'est pas toi qui t'es dit, tiens, ce truc-là, faut que je le monétise, je vais aller trouver une audience qui a de l'argent. Ils étaient déjà là. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'ils utilisaient cet outil qui, du coup, n'était pas un outil vraiment professionnel? Tu le développais comme ça, c'était gratuit, tu n'avais pas toujours même un développeur avec toi full-time. Qu'est-ce qui faisait que cet outil-là, il les attirait?
Bah, tu l'as dit un petit peu dans la question. Au tout début, et il faut se remettre un petit peu aussi dans le contexte de l'époque. C'était, donc, nous, on l'a lancé le 17 octobre 2010. Nos concurrents n'existaient pas. Je vois nos principaux concurrents. En fait, ils ont lancé... Bon, il y en a un qui était un petit peu avant, mais les autres, ils ont lancé en fait, leurs produits le même mois que nous. Bon, la seule différence, c'est que j'avais 15 ans, eux avaient 25 ans et ils ont pu faire ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Mais bon, depuis cette date, on les a rattrapés. Mais ce qui a plu, je pense, c'est deux choses. C'est le fait que ce soit français, vraiment, parce qu'il n'y avait aucun outil français qui permettait de faire ça. Le fait qu'il n'existe rien d'autre que nous en français. Du coup, dès que tu faisais une recherche Google, tu tombais sur nous. Et également, ça ne faut pas le nier, hein, le fait que ce soit gratuit. C'est vrai que ça nous a vraiment permis de faire l'acquisition utilisateur, le fait que ce soit gratuit. Et derrière, quand on a voulu passer en modèle payant, enfin freemium, du coup, on a eu cette base d'utilisateurs qu'on a pu travailler. Même si, je vais l'avouer, hein, y a aucun souci à ça. En fait, à l'époque, on ne demandait pas le mail. Parce que les personnes s'identifiaient avec l'API Twitter et du coup on n'avait que leur pseudo Twitter. Mais comme il y avait une relation qui s'était créée,
tu pouvais pas les contacter du tout.
Pas du tout. Il y avait même pas. La seule possibilité c'était de derrière les contacter en DM sur Twitter, mais il fallait qu'ils nous suivent. Donc enfin, ça, je veux dire, c'était un travail de titan quoi. Mais ça, on l'a fait. En fait, on l'a fait sur le de plus en plus, en prenant du temps. Puis il y avait quand même encore à l'époque, donc quand on a créé la boîte vraiment en 2016, il y avait 25 000 utilisateurs et il y en avait pas mal d'actifs parmi ces utilisateurs. Donc déjà, il y avait cette base active où on les a prévenus, où là, on commençait à récupérer des mails petit à petit quand on a mis en place ça. En clair, en fait, on s'est professionnalisé, quoi. C'est vraiment ça le truc. Mais du coup, voilà, moi, je pense qu'au début, en tout cas, c'était parce que c'était français et gratuit.
Donc j'imagine, en fait, finalement, que le process, il est beaucoup plus grand, notamment sur un grand groupe. Tu n'as pas besoin d'aller convaincre, je ne sais pas, le directeur informatique ou qui que ce soit. Au final, c'est juste la personne qui est community manager chez tel ou tel journal ou chez telle radio qui en fait se dit « Tiens, ça c'est bien, ça me simplifie la vie, c'est gratuit, j'ai besoin de demander l'autorisation à personne, je l'installe en fait. »
Exactement. Bah, en plus, il n'y a même pas d'installation parce que c'était juste un bouton.
Ouais, enfin, je me connecte avec le compte. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui, à mon avis, a fait que ça a bien fonctionné, c'est qu'il n'y avait rien, il n'y avait besoin de rien faire. Juste, tu cliquais sur « Je me connecte » avec ton compte Twitter. Et après, tu programmais tes tweets à l'époque, hein, puisque c'était que ça. Maintenant, ça a bien, bien évolué. Mais je pense que ouais, ça fait partie aussi de cet essor en fait, assez rapide, parce que vraiment, en quelques années, c'était des comptes. Mais en plus, je me souviens, on a eu un compte. C'était le premier à passer la barre des 1 million d'abonnés. C'était assez fou. Enfin, je veux dire... Moi, je me souviens, c'est encore des trucs drôles, mais chez moi, je descendais les escaliers, genre j'allais voir mes parents, « Oh, il y a ce grand groupe qui vient de programmer son premier tweet chez nous et tout, c'est trop cool !» Mais ouais, ça fait partie aussi de la simplicité et l'ergonomie, parce qu'en fait, bah, comme il y avait assez peu de choses à faire, bah, tu avais un champ, une date, une heure, et tu cliquais sur « Programmer » et c'était fini. Je pense que ça a aussi joué en notre faveur.
Du coup, tu as parlé du fait que c'était pas facile de transitionner sur du payant. Est-ce que... les gens qui étaient là, qui étaient en gratuit, tu as réussi à en transitioner beaucoup sur du payant ou est-ce que ta base aujourd'hui de clients payants, c'est des gens que tu as acquis après ce passage sur un modèle freemium avec une version payante?
Disons que c'était pas, ils ne sont pas tous passés en payant, mais je dirais que c'est un peu mitigé. Voilà. Ils ne sont pas tous passés en payant, mais il y en a certains qui sont passés en payant. Je vais même raconter une petite anecdote parce que c'est à un moment où on s'est trompé et c'est bien aussi de le reconnaître et pour la suite, ça nous a beaucoup aidé. En fait, si tu veux, nous, le plan gratuit à l'époque, tout était illimité. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, programmer des tweets à l'époque. Puis, quand on est passé en modèle freemium, on a amélioré ce plan gratuit. Notamment, avant, on ne pouvait pas mettre d'image, on ne pouvait pas programmer des tweets avec des images. Et là, dans la nouvelle version freemium, la partie gratuite, il y avait les images. Donc, on l'a amélioré. Sauf que, comme à un moment donné, il faut trouver aussi des éléments pour passer en payant, on a bloqué le nombre de tweets programmables. Avant, c'était donc illimité. Et là, on l'avait bloqué à 40. Sauf qu'on était tellement focus produit, c'était la fameuse nuit, tu sais, où il y a eu le premier client, qu'on a oublié de prévenir nos utilisateurs qu'on avait rajouté cette limitation. Et du coup, on a reçu un mail, surtout, il y en a eu un seul. Mais quand tu es fatigué, tu le prends personnellement, alors qu'il ne faut pas du tout le prendre personnellement, hein, mais tu vois, ça apprend. Où la personne nous dit, ouais, vous faites la course à l'argent, vous faites une course à l'argent, c'est pas du tout comme ça que moi je fonctionne. Si c'est ça, je pars, quoi. Et là, tu fais, wow, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, c'est pas possible. Et là, tu te remets un peu en question, tu te dis, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû, enfin, tu vois, plein de trucs. Et en fait, bah, là, c'est là où les mentors sont très, très utiles. On a appelé Mathilde, on en a parlé. En fait, le problème venait juste de nous, dans le sens où on avait annoncé notre nouveau site, annoncé les plans payants, mais on n'avait pas prévenu les utilisateurs qu'il y allait avoir ce petit changement qui n'est pas petit en termes de quantité de postes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rétracté, on s'est excusé et on a bien préparé pour la semaine d'après un plan de com où on a dit, voilà, il va y avoir ces changements. On les a préparés, quoi. Voilà pourquoi. Vous allez avoir un essai gratuit si vous voulez passer en payant, sinon vous restez en gratuit. Donc, voilà. Et du coup, ils ont compris. Et ils ont dit, mais trop cool et tout, c'est trop bien, parce que si derrière vous devenez une boîte, ça veut dire que vous allez faire améliorer le produit, et donc nous, bah, par définition, avoir un produit meilleur, quoi. Et donc, pour répondre à ta question initiale, au début, ça a été un petit peu complexe, hein, les premiers mois, de les faire passer en payant, mais au fil de l'eau, quand le produit s'est amélioré de plus en plus, quand ils ont compris aussi, parce que c'est aussi, je pense, quand tu choisis un produit, c'est que t'aimes le produit, bien entendu, il est utile, etc., il te fait gagner du temps, de l'argent, mais si en plus, la cerise sur le gâteau, tu vois que la boîte est bien, qu'ils sont français, qu'il y a de la valeur qui est apportée, enfin, notamment avec notre blog et plein d'autres choses qu'on pourra citer tout à l'heure, bah, ils vont y aller, tu vois, ils vont dire, bah, c'est bon, je vous fais confiance, et en fait, ouais, carrément, et donc, il y a déjà des grands groupes à ce moment-là, là, les 2-3 mois après le basculement, qui ont commencé à s'abonner petit à petit au service. Puis après, du coup, bah, on a des nouveaux clients chaque jour. Bon, maintenant, hein, ça fait des années. Enfin, maintenant, ça fait 5 ans. Donc, forcément, c'est des nouveaux clients. Mais étonnamment, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a des fois encore aujourd'hui, on voit des clients qui... Enfin, des utilisateurs qui passent clients, qui s'abonnent, et ça fait genre 4 ans qu'ils sont là, quoi. Et qui utilisent la plateforme, voilà. Mais en tout cas, pour répondre, c'est un peu mitigé, parce que ce serait faux de te dire tout le monde est passé en payant, et ce serait faux de te dire que personne n'est passé en payant. Donc, voilà, c'est... Ça se fait progressivement.
Une fois que t'es passé sur du payant, comment est-ce que tu fais pour aller trouver tes prochains clients maintenant? Tu vas directement sur du payant, t'identifies qui sont les clients qui ont la plus de valeur ajoutée. Est-ce que tu dis, je sais pas, est-ce que t'appelles la personne qui vient de s'inscrire au journal machin et tu dis, bah tiens, j'ai remarqué que vous payez. Je voudrais vraiment comprendre pourquoi vous nous avez choisi pour développer un modèle, tu vois, peut-être un peu plus avancé de qui est ton meilleur client. Comment est-ce que t'as utilisé, du coup, cet asset incroyable d'avoir déjà une base de clients au départ pour te dire, ok, maintenant, il faut que je construise une stratégie de vente, une stratégie marketing?
Écoute, c'est très simple, c'est effectivement leur parler. Leur parler, nous on est très très fan du sondage. Alors oui, mais surtout à l'écrit. Mais oui, ça nous est arrivé. Nos plus proches clients, qui sont aujourd'hui des ambassadeurs, hein, faut le dire, on les connaît, on les tutoie, on les a au téléphone, on se rencontre en physique, enfin quand la situation le permet. Mais c'est vrai que on est très très fan des sondages. Sondage avec des champs ouverts, hein, où on demande, donc c'est à peu près une fois par trimestre, on va demander à toute notre base, on l'envoie sur toute notre base, bah, qu'est-ce que vous pensez de l'outil, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous frustre. Tu vas vraiment se poser des questions, alors pas 15 questions parce que les gens après partent, c'est plutôt à chaque fois 5-6 questions, mais pour que ça nous apporte des réponses au moment où on les souhaite. Ça marche plutôt bien parce qu'on a beaucoup de retours, après il faut les traiter, il faut leur répondre. Nous, de toute façon, quel que soit le domaine, hein, dans la boîte, je pense notamment là au CV tout de suite, dès qu'on a un contact avec quelqu'un, il faut qu'on lui réponde. On ne laisse jamais sans réponse, tu vois. Ça, c'est important. Et également, du coup, oui, on les a au téléphone, parce qu'au téléphone, tu peux creuser, tu peux passer un petit temps avec eux, et derrière, on les remercie. Enfin, là, c'est rigolo, mais on est en train, là, au moment où on enregistre le podcast, on est en train d'envoyer des affiches qu'on a créées nous-mêmes, des affiches Swelo, à certains de nos clients pour les remercier, justement, de ce type d'infos qu'ils nous donnent, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, en fait. On est fan de ce qu'on appelle le MVP, donc Minimum Valuable Product, où en gros, on avance étape par étape. On va préférer faire une mise en ligne d'une grosse fonctionnalité en 5 étapes plutôt d'attendre 2 mois et de le faire tout de suite. Mais ça, on l'a compris au fil de l'eau, et on arrive à faire ça parce qu'à chaque étape, on a des clients à qui on le demande, est-ce que ça vous plaît ou pas, quoi? Est-ce que ça vous correspond? Donc oui, par téléphone, beaucoup par email et par sondage. Mais on a souvent, ouais, aussi même eux, d'eux-mêmes, en fait, ils viennent, ils nous parlent. Et surtout, et ça fait le lien aussi avec ce qu'on met en place en stratégie d'acquisition, on a un mail qui s'appelle « Juste une petite question » qui est envoyé automatiquement une heure après que la personne se soit inscrite. C'est moi qui l'envoie. Et donc, le sujet, c'est juste une petite question. Le taux d'ouverture est assez fou puisqu'il monte à 60%. Et le taux de réponse derrière est aussi très, très élevé. Ou en gros, du coup, je pose une question. Enfin, je présente Swelo. Je dis, voilà, on est 9 Toulonnais passionnés. Par contre, j'ai une question. Pourquoi vous êtes inscrit chez nous? Et grâce à ce mail, je reçois entre 5 et 7 réponses tous les jours. On arrive à avoir des infos, mais c'est génial parce que du coup, après, derrière, ça, on commence à discuter avec le prospect, du coup, qui est en train de tester la plateforme. Derrière, il y a un cycle de mail qui se déclenche en fonction de tout ça. Mais ce mail-là, c'est une mine d'or et je remercie tous ceux qui nous répondent et qui prennent le temps de nous répondre. Parce que des fois, c'est votre concurrent, il ne fait pas ça alors que vous le faites. Des fois, c'est parce que vous êtes français, parce que c'est plus ergonomique, parce que telle personne vous a recommandé. Et donc, nous, derrière, on va remercier la personne qui nous a recommandé. Enfin, tu vois, c'est plein de réflexions qu'on a commencé à mener, beaucoup de tests. Hein, ça, c'est test. Et au final, ces infos-là dont tu me parles, on les a via téléphone, via mail, via sondage.
Quand tu fais un sondage, tu envoies toujours les mêmes questions et les questions, tu les modifies en disant, tiens, ce trimestre-là, voilà ce que j'ai envie de savoir et tu sors une liste ou est-ce que c'est des questions qui sont assez standards?
Non, on les modifie à chaque fois. À chaque fois, on regarde ce qu'on a fait dans les précédents sondages, mais on va les modifier. La seule question qui reste identique, c'est à la fin, celle qui dit « Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?» Mais sinon, non, c'est en fonction en fait, de nous, Swelo et l'équipe, en fonction du besoin qu'on a. Enfin, tu vois, des fois, on a des réflexions de fonctionnalités. On se dit « On en a 5. Il va falloir qu'on priorise. » Qui est prêt en fait à payer en fait pour ça. Enfin, tu vois, c'est très concret, hein. Mais qui ça peut intéresser. Et donc voilà, des fois on va tourner les questions dans ce sens-là. Des fois, c'est peut-être quel réseau social souhaitez-vous qu'on rajoute dans l'avenir. Enfin voilà. Donc ça va dépendre en fait de la période dans laquelle on est et de la croissance dans laquelle on est et des questions qu'on se pose.
Une question que je me pose sur ce type de sondage, c'est si tu as des freelances en community management et des grosses boîtes qui te répondent et que tout tombe dans le même seau, je me dis il doit y avoir des problématiques qui sont tellement différentes qu'au final, tu vas être mis dans différentes directions. Est-ce qu'il y a une manière sur le sondage de segmenter la personne qui elle est, son profil, peut-être le plan sur lequel elle est? Comment est-ce que tu réfléchis à la segmentation quand tu t'analyses ton sondage?
Oui, ça, c'est la première question. En fait, déjà, on demande si la personne est utilisatrice ou client.
Okay.
Et puis après, nous, on peut savoir qui elle est derrière. Alors, on n'a pas ces données-là parce qu'en fait, le sondage, on ne le fait pas sur Swelo, donc on n'a pas la donnée exacte de qui est la personne.
Mais tu as son mail?
C'est plutôt vraiment, enfin, surtout au niveau RGPD, j'ai pas son mail non plus. Sauf si elle le laisse. Mais disons qu'il n'est pas obligatoire parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de réponses, hein, tout simplement, en sachant qu'on fait très attention à tout ce qui est RGPD. Donc du coup, voilà, on veut vraiment... Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est les données globales. Hein. C'est pas les données de tel utilisateur. Mais derrière, si on sait, parmi les 200 réponses, on a 100 clients, 100 utilisateurs, puis parmi les clients, on a clients, alors nous, ce qu'on appelle P2, P3, c'est par rapport au plan, en fait, mais voilà, le plan à 9€, le plan à 29€, ou le plan sur mesure, ça, on a les infos parce qu'on les demande.
Okay.
Effectivement, ça permet de qualifier. Après, si la personne, à la fin du sondage, on lui dit, souhaitez-vous être contacté pour discuter, pour qu'on vous réponde, etc., vous pouvez laisser votre mail, nous l'utiliserons, enfin, tu vois, que dans telle circonstance, on le revendra pas, ni rien, enfin, tu vois, après, ça, c'est tout ce qui est RGPD. Si elle le souhaite, elle le
peut. Mais tu as déjà leur mail?
Oui, sauf que comme on utilise une autre plateforme au niveau des sondages que sur le site, on fait pas quand la personne clique dans la newsletter, ok, on a son mail, on sait qui a cliqué via MailChimp, tu vois, mais on peut pas savoir quelle est la réponse correspondante à tel ou tel clic, tu vois. Mais c'est volontaire.
D'accord.
C'est volontaire. On pourrait avoir des outils qui le feraient, hein, c'est pas le souci. Mais c'est volontaire parce que, encore une fois, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment les réponses que les personnes vont pouvoir nous apporter. Si derrière, elles souhaitent une réponse et on peut leur apporter, avec grand plaisir, on leur apporte. Leur répondre.
Ça marche. Tu as parlé pas mal de l'importance d'être français. Ça m'intéresse de creuser dans ce sujet parce que c'est un truc sur lequel je suis assez... j'ai pas mal de questions. Tu vois, je me demande à quel point c'est important d'être français, pourquoi est-ce que c'est important, pour quel type de personne c'est important et comment est-ce que toi, tu réfléchis à la façon dont tu le mets en avant. Est-ce que c'est avant tout une question de langue? C'est OK, ces plateformes-là, je comprends pas totalement et le support, je le comprends pas totalement parce que c'est de l'anglais et je le comprends pas trop. Ou est-ce que c'est un truc de patriotisme, de c'est français, donc c'est mieux, donc c'est plus proche de moi? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là?
Je vais dire, c'est un peu tout. Moi, pour être très franc aussi, au tout début, pendant l'accélérateur, on avait eu cette même question, tu vois. Mais mettez en avant, tu nous disais, mais mettez en avant vraiment que vous êtes français partout, etc. Je disais, oui, c'est quelque chose de positif, hein, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que la personne va acheter chez nous plutôt que chez un concurrent? Vraiment, je me posais la question. Bon, la réponse, je peux te la donner maintenant avec du recul. La réponse est oui. Ça fait clairement la différence sur plein de points. Alors déjà, pour vraiment resituer, nous, nos secteurs favoris, ça va être les institutions, les écoles, les médias, bien entendu. Mais du coup, quand tu as ces trois grands, alors après il y en a plein d'autres, hein, mais quand tu as ces trois grandes cibles, bah, pour elle, c'est extrêmement important que les serveurs soient en France, que l'équipe derrière, le support soit français, réactif, que la plateforme soit française, que tous les contenus créés autour ce soit français. Parce que bon, j'espère que nos concurrents ne vont pas trop écouter ce podcast. Oui, alors au pire, c'est pas grave. Mais en fait, pour la plupart de nos concurrents, il n'y a aucune version française. Tout est en anglais, tu vois. Et quand il y a une version française, je pense notamment à notre plus gros concurrent qui est canadien, bah, en fait, il y a la moitié des mots qui sont français et la moitié des mots qui sont anglais. Et du coup, bah, oui, on comprend, mais ce n'est pas non plus tu vois, la plateforme trop cool qui est faite en ce sens. Nous, c'est vraiment réfléchi avec des petits mots doux parce qu'on adore tout ce qui est l'amour. Tu vas programmer vos messages avec amour. Quand tu cliques quelque part et qu'il ne faut pas que tu cliques à cet endroit, ça va te marquer « pas si vite papillon ». Enfin, tu vois, on essaie de mettre des petites touches d'humour, des petites touches de... Enfin, un peu pour casser le truc de se dire bah, « en fait, finalement, Swelo, derrière, c'est des algorithmes, quoi ». Tu vois, c'est la réalité. Mmh. Mais il y a aussi des humains et on veut mettre vraiment ça en avant. Et en fait, dans l'argument c'est des humains, mais le côté français compte énormément. Je pense que c'est du patriotisme dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui nous disent je préfère être sur un outil français, surtout s'il est meilleur, etc. Bon, ça, après c'est des arguments, mais voilà. Mais t'as également, surtout ça c'est chez les grands groupes et les institutions, des grosses réflexions qui sont en train de se réaliser depuis un ou deux ans, nous on le remarque beaucoup, où en fait elles vont vraiment se pencher vers des solutions françaises, qui ont leur serveur en France, qui ont un support français, tu vois, qui vraiment sont full France, parce que c'est aussi un peu la tendance du moment, tu vois, de faire du français. Et nous, ça ne nous empêche pas d'ailleurs, de notre côté, d'avoir une version anglaise, de penser à l'international à un moment donné, tu vois. Enfin voilà, les deux peuvent aller ensemble. Mais je pense qu'avant, j'étais un peu sceptique, mais avant, il y a 5 ans, et là maintenant avec le recul, ça marche vraiment et c'est vraiment un argument de vente, vraiment.
Comment est-ce que tu réfléchis à cette version internationale ? Est-ce qu'aujourd'hui, la version existe en anglais, après c'est pas extrêmement compliqué de traduire une plateforme. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un push marketing significatif à ce niveau-là ou est-ce que c'est quelque chose que tu gardes pour plus tard ?
Pour l'instant, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, pour des raisons assez simples, hein, aujourd'hui on commence à être bien en place sur le marché français et francophone, pour être plus global. On a des clients qui viennent de partout dans le monde, hein, mais on n'a pas d'équipe qui va aller les démarcher, qui va faire des opérations marketing, de la com. Donc ça, on le garde pour plus tard, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la force de frappe pour aller à l'international. Après, on y réfléchit quand même beaucoup. Parce que bah, du coup, c'est quand même un gros, gros marché. Enfin, on voit nos concurrents où ils sont, on les connaît parfaitement, on connaît leurs clients, leurs cibles. Et c'est un gros, gros marché. Mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de travail à faire au niveau du francophone, au niveau de la France. Donc, on va privilégier pour l'instant cet axe-là. Et ensuite, on verra ouais, pour l'international.
Et dans ta tête, tu as une idée de à quel moment est-ce que tu ferais la bascule, en tout cas, quel serait le déclencheur de te dire là, faut que je passe à l'international, là, il est temps. Comment est-ce que tu réfléchirais à cet indice, tu vois, que, OK, là, c'est bon, faut que j'y passe.
C'est rigolo parce que c'est vraiment une discussion actuelle hein, au bureau, notamment avec Thibaut, mon associé, et avec l'équipe. Je pense que là, enfin, nous, on a vraiment une roadmap. Quand je dis roadmap, c'est autant technique que commercial, que marketing. On a vraiment beaucoup de projets qui sont en train de se débloquer. Beaucoup qui vont arriver pour la rentrée également, pour septembre, octobre, novembre, décembre. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de les faire, qu'on voit si ça fonctionne ou pas, si ça va amener la croissance qu'on attend. Et je pense que dès début 2021, on va pouvoir commencer à y réfléchir à la suite. Tu vois, okay. En fait, là, on a vraiment des gros trucs qui vont arriver. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner et on verra ensuite. Et si on veut aller à l'international, ça, c'est clair, il va falloir à un moment donné avoir plus de force de frappe. Donc, si on le souhaite, potentiellement, pourquoi pas réfléchir à une autre levée de fonds. Ou alors, si on le souhaite, on peut garder notre modèle actuel et se dire bah, on est rentable, on va recruter petit à petit. C'est vraiment deux stratégies différentes. On ne sait pas laquelle on va prendre. On attend vraiment de voir. Là, c'est rigolo parce que c'est une des premières fois où on est dans cette situation. Hein. D'habitude, vraiment, on connaît notre vision à long terme, à moyen terme, à court terme. Quand je dis long terme, c'est sur 5 ans. Moyen terme, c'est 1 an, 2 ans. Et court terme, c'est dans les prochains mois. Et là, c'est vraiment la première situation où, à titre perso, j'ai hâte d'être à la fin de l'été parce qu'on va annoncer pas mal de choses, pas mal de nouvelles fonctionnalités, un nouveau site, pas mal d'évolutions. Et il faut qu'on voit si vraiment ça a un gros impact ou pas.
OK. Donc, tu attends de voir l'impact de tes actions actuelles avant de comprendre la suite.
C'est ça.
Ça fait sens. Je suis intéressé par ton processus de vente. Je sais que tu fais l'aller-retour entre Paris et Toulon toutes les semaines, ou en tout cas tu le faisais. Je ne sais pas si actuellement c'est faisable, mais parle-moi un peu du processus de vente. Du coup, j'ai l'impression que c'est un processus de vente qui reste assez direct, en face à face, dans des meetings où tu vas aller voir les gens et c'est toi qui vas t'en occuper. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu setup les meetings? Comment est-ce que tu les prépares? Et comment est-ce que tu mènes la barque dans un meeting comme ça pour vendre Swelo?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une manière de faire un peu particulière au niveau de la prospection. On a donc aujourd'hui, hein, chez Swelo, on est 9. On a 3 commerciaux, 3 développeurs, quelqu'un au marketing et au support, quelqu'un en UX UI et moi-même. Un des commerciaux, 2 des commerciaux, eux, leur boulot, c'est de la prospection. Toute la journée. Ils vont envoyer des mails, ils vont envoyer des emails LinkedIn et ils vont aller trouver les bonnes personnes. Et quand je dis la bonne personne, c'est vraiment le community manager, le social media manager, la directrice ou le directeur de com. Vraiment notre cible première qu'on a pu définir depuis quelques années. Ça, c'est la première chose. Une fois que ces 2 commerciaux ont trouvé un rendez-vous, ils vont l'attribuer soit à Laura, donc qui est la 3e bizdev, qui elle fait de la conversion et de la rétention, et ou alors soit moi, si c'est physique et si c'est à Paris. Ce qui fait que donc on a vraiment 2 personnes en acquisition et une personne en conversion et en rétention. Laura, elle fait à peu près 2 à 4 présentations par ordinateur par jour. Donc, on fait assez peu en fait de physique. Les seuls rendez-vous physiques qu'on peut faire, c'est donc moi quand je suis à Paris avec les grands groupes plutôt. Et donc là, c'est vraiment, écoute-moi, j'y vais toutes les semaines en effet, bon, sauf avec la période actuelle, mais sinon je fais lundi, mardi, mercredi à Toulon et le reste de la semaine à Paris. Et donc bah voilà, je vais chez le grand groupe, je fais la même présentation que Laura peut faire ici avec l'ordinateur qui dure une demi-heure. Sauf qu'effectivement, bah, quand tu es en face à face, il se passe quand même quelque chose. Hein. Nous, on le voit dès qu'on va en face à face. Il y a beaucoup plus, enfin, le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Puis il y a les petits à côté. Tu prends encore plus soin, même si on en prend déjà beaucoup soin de nos prospects, mais tu prends encore plus soin des personnes. Tu les écoutes parce que c'est un temps plus long aussi. Tu les écoutes longtemps. À la fin, moi, j'ai toujours le petit truc de bah, je vous offre 2 petits stickers Swelo. Et en fait, moi, ça, j'ai remarqué que ça cartonnait. Tu vois, c'est un petit tip, c'est tout bête, mais on a fait 2000 stickers et tu vois, ils sont déjà partis. Des petits stickers Swelo découpés. Et en fait, à la fin, tu dis bah voilà, j'ai une petite surprise. Vous le collez où vous voulez, vous l'avez. Et puis, même si vous voulez le jeter, bah, collez-le sur un poteau. Je sais pas, enfin, bon, c'est peut-être pas autorisé, mais tu vois l'idée quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller un peu plus loin que juste la présentation. Et du coup, bah, comment je me prépare, c'est pas très compliqué. Hein. J'analyse le grand groupe, je regarde ses réseaux sociaux, est-ce qu'ils utilisent déjà un outil, quels sont leurs besoins d'après moi, d'après ce que je vois, comment ils gèrent leurs réseaux sociaux quoi, globalement. Et après, bah, en one-to-one, il y a le discours qui est déjà là, qu'on a beaucoup travaillé au niveau de notre présentation. On a normalement les réponses à toutes leurs questions au niveau de l'outil. Donc après, ça se passe super bien. Et encore une fois, le petit plus, ça va être le côté conseil sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si nous ne sommes pas une agence et on ne le deviendra jamais, je pense. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas du tout là où on veut aller. Nous, vraiment, notre plateforme, on a un modèle SaaS, quoi, on n'est pas une agence. On a quand même ce souhait-là d'apporter de la valeur pour que nos clients gagnent en compétences. Donc, pendant les rendez-vous en one-to-one, on va des fois parler de sujets comme TikTok, comme Twitter, enfin voilà, peu importe, hein, ça dépend de leurs questions. Donc voilà, et au final, ça marche assez bien puisque les commerciaux en prospection prennent entre 40 et 60 rendez-vous par mois. Laura fait entre 2 et 4 présentations par jour, du coup. Moi, je fais le reste, du coup, à Paris en physique. Et au final, on a plusieurs dizaines de clients. Alors là, je parle uniquement, pas en naturel, hein, vraiment au niveau des commerciaux, mais on fait une acquisition réelle de plusieurs dizaines de clients par mois. Donc, c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien. Après, je ne vais pas mentir, ce n'est pas un process qu'on a trouvé dès le premier jour. Hein. Ça fait 5 ans qu'on réfléchit, qu'on teste. Et ce modèle-là, où il y a une personne qui est focus sur l'acquisition et une autre personne qui est focus sur la conversion et de la rétention, ça marche plutôt bien, en tout cas chez nous.
Et toi, c'est un truc que tu as envie de continuer à faire. Le train, ça sent assez violent quand même au niveau de l'équilibre de vie. De toute manière, c'est généralement assez violent pour un fondateur de faire encore beaucoup de meetings de vente. C'est quand même un autre truc à gérer. Comment est-ce que toi, tu le ressens par rapport à ça? Et comment est-ce que tu réfléchis à quel moment est-ce que quelqu'un sera prêt à reprendre le flambeau sur ce genre de tâche, par exemple?
Bah, je pense du coup, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense du coup que ça va se revoir un petit peu début d'année prochaine, pour pourquoi pas recruter un commercial senior plus sur Paris. Après moi, ça ne m'empêchera pas d'aller à Paris avec ce même rythme. Ça fait déjà 2 ans que je le fais, je le vis très très bien. Alors pour info, nous on est à Toulon, hein, dans le sud de la France, et du coup on a 4 heures de train entre Toulon et Paris. J'habite chez mes parents ici et j'ai un appart avec ma copine à Paris. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Là, je parle vraiment au niveau personnel, hein. Je parle pas forcément boulot, de pouvoir aller à Paris, de pouvoir voir des concerts, avoir de la culture, être avec ma copine, sortir, penser à autre chose, être ici avec l'équipe, je trouve que c'est extrêmement important qu'on soit ensemble pour créer la culture de l'entreprise. Et d'un côté, il y a certains rendez-vous, ça c'est la vie, même si je trouve que c'est un peu nul, hein, je suis très franc, mais il y a certains rendez-vous où quand c'est le CEO qui s'y met, ça va avoir un tout autre aspect, un tout autre impact quand c'est un bizdev, tu vois. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, la société, finalement. Bon, c'est pas nouveau, on réinvente pas quelque chose, mais c'est pour ça que je pense que ça continuera. Après, je fais quelques rendez-vous, hein. J'en fais pas non plus 40 en 2 jours, tu vois. Ça va être 2-3 au maximum par jour. Mais moi aussi, ça me permet de me nourrir, hein, faut dire la vérité, tu vois. Ça permet de nourrir aussi, de voir comment les clients voient la plateforme quand on la présente. Est-ce qu'il y a des questions, des points de blocage? Enfin, tu vois, c'est bien. Alors après, il y a un moment, effectivement, où on va sûrement grossir et où mon rôle va changer, comme il a déjà évolué, hein, d'ailleurs, depuis 5 ans, puisque avant, je faisais tout ce qui était web design, intégration, la communication, etc. Depuis qu'on a recruté, bah, forcément, il y a des gens qui s'en occupent. Et moi, je fais mon vrai rôle de CEO, entre guillemets, où bah, je vais les manager, je vais avoir la vision, je vais parler avec les investisseurs, la banque, l'avocat, le comptable, tu vois, je vais réfléchir à des choix stratégiques un peu plus globaux qu'après, on va appliquer tous ensemble. Mais même avec ça, même si ça va continuer à s'accélérer, où je vais continuer à avoir ce rôle de plus en plus et du coup moins de temps, et aussi il y aura d'autres personnes pour le faire, je parle notamment des présentations, je pense que je continuerai quand même certains rendez-vous, tu vois, pour vraiment avoir garder un peu la main, garder un peu l'opérationnel, voir ce qui se passe sur le terrain par rapport à nos prospects, parce qu'à chaque fois, c'est hyper enrichissant.
Je voudrais parler de l'équipe. Vous êtes 9 aujourd'hui dans l'équipe ?
Exactement, ouais.
Et donc, du coup, quasiment tout le monde est sur place dans un bureau à Toulon.
C'est ça. Alors aujourd'hui, donc on est 9. Il y a 2 stagiaires qui sont chez nous là depuis 2 mois et qui nous partiront à la fin de l'été. Mais j'aime pas trop ce terme stagiaire, en fait, parce que c'est, enfin, encore une fois, dans la société, c'est assez mal connoté, je trouve. Pour moi, c'est des membres d'équipe, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes... ils bossent extrêmement bien déjà. Et pour moi, ils ont les mêmes droits de décision, d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit de donner leur avis sur une décision qu'on va prendre, sur une question qu'on va poser à tout le monde. Ils font vraiment partie de l'équipe. Donc effectivement, on est 9. On a 3 commerciaux, 3 devs. Donc il y a tout le monde qui est ici, sauf un commercial qui vient d'aller à Nantes. C'est tout nouveau. Mais qu'on a fait ce choix-là. Donc il fait de la prospection, qui vient de s'installer à Nantes. Et donc moi qui fais les navettes entre Toulon et Paris. Mais sinon, tout le monde est dans nos locaux au siège à Toulon, effectivement.
Et ça t'a jamais attiré de mettre ça en remote et de pouvoir avoir les gens qui vont n'importe où? Tu penses que c'est vraiment important d'avoir ces bureaux-là? Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là?
Je suis assez, je suis assez sévère au niveau de cette question. Nous, il y a encore une fois quelques infos. Hein. Nous, c'est la semaine de 4 jours et demi déjà. Donc, on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi et tout le monde termine le vendredi à 13h. On fait quand même 35 heures, hein, mais qu'on place sur les autres jours. Et le vendredi est en télétravail. Donc après, c'est optionnel. Hein. Si les personnes veulent venir au bureau, il y a le bureau. Par contre, à mes yeux aujourd'hui, ça me semble nécessaire et important que tout le monde soit là physiquement pour créer la culture d'entreprise qu'on veut créer. On est encore tout jeune, il y a encore beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de discussions. Et même si pendant le confinement, comme on a l'habitude du télétravail, ça s'est extrêmement bien passé, j'ai encore le souhait, le besoin, que ce soit personnel, mais également l'envie au niveau de l'équipe, que nous soyons tous au bureau. Parce que, en plus, on a une culture d'entreprise assez forte, et on s'entend super bien. Mais tu vois, tous les midis, on va jouer à des jeux de société. Le soir, des fois, on va aller boire des coups. Mais pour parler aussi d'autres choses, tu vois. Pas que du projet, c'est important aussi de parler d'autres choses. Et aujourd'hui, tout en remote, non. Encore une fois, il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, non. À nos yeux, le meilleur modèle, voilà, c'est d'être quelques jours au bureau, 1 ou 2 jours en télétravail maximum. Aujourd'hui, c'est 1, peut-être qu'un jour, ce sera 2. Mais pour moi, ouais, c'est assez, je suis assez sévère, entre guillemets, dans le sens où ça fait 5 ans, pour l'instant, ça restera comme ça. Voilà, c'est nécessaire, je trouve, par rapport à là où on en est dans notre développement.
Comment fonctionnent les meetings chez vous? J'ai vu que tu faisais des meetings de uniquement 30 minutes par semaine.
Exactement. On n'aime pas trop les réunions, hein, quand c'est trop long, etc. Donc, on en a une toutes les semaines, tous les lundis, généralement de midi à midi 30, où chacun a 3 minutes pour s'exprimer sur ce qu'il a fait la semaine dernière, ce qu'il va faire la semaine prochaine et comment il se sent personnellement. Je me sens bien, il y a ça qui ne va pas très bien. Après, rien n'est obligatoire, hein, s'ils veulent rien nous dire. Puis, il y a une note de la semaine. Voilà, une note de la semaine, c'est un ressenti. Il n'y a pas forcément de barème. C'est juste entre 0 et 10. Combien tu mettrais cette semaine, tu vois?
Et du coup, ils notent quoi? Ils se notent eux-mêmes ou ils notent comment ils se sentent?
C'est ça, ils se notent eux-mêmes. Ils vont faire un bilan de leur semaine. Ils vont dire, voilà, cette semaine, moi... Enfin, tu vois, on l'a faite là, lundi. Là, moi, ce week-end, c'était génial. J'ai gagné tant de clients cette semaine. Ouais, je suis assez content, ça va être un 8, quoi. Et il y a d'autres semaines, là, ce que j'ai fait, ça, moi, ça ne m'a pas plu. Ou, tu vois, le résultat ne m'a pas plu. Bah, du coup, je vais mettre un 5. Ou alors, quand on a une grosse nouvelle, tout le monde met 10, tu vois. Enfin, tu vois, c'est plus... Alors, je vais te dire pourquoi on fait ça. Hein, c'est plus, moi, un indicateur. Parce qu'après, je fais une moyenne, en fait, depuis le début. Hein, ça fait depuis qu'on a fait la levée de fonds, hein, qu'on fait ça.
La levée de fonds, c'était en quoi? En quelle année? 3 ans?
En 2017, il y a 3 ans, c'est le 27 juin 2017, là ça fait 3 ans. Depuis ce moment-là, on fait ça et ça me permet d'avoir une moyenne et de voir. Et tu vois qu'il y a des moments dans l'année où tu as tout le monde, il y a un petit coup de mou, tu vois, pour X ou Y raison. Alors tu vois que ça arrive de temps en temps, mais ça arrive toujours au même moment dans l'année. Et donc nous, ça nous permet de réagir en fait. En mode, allez, ce mois-ci, on sait que c'est pas le meilleur mois. Enfin, je pense notamment, tu vois, août, où tout le monde est en vacances. Donc, pour l'acquisition, c'est un peu plus complexe. Donc, on met en place d'autres processus pour l'acquisition. Nous, on va dire, voilà, on profite de l'été, justement, comme il y a assez peu de monde. On va réfléchir sur des sujets de fond sur lesquels on n'a pas pu réfléchir. Et nous, en tant que manager, ça nous permet de les motiver d'une autre manière parce qu'on voit qu'il y a une petite baisse de morale. Ou alors, si on voit qu'une seule personne a une mauvaise note, là, on va la prendre peut-être seul à seul pour dire comment ça va. Parce qu'encore une fois, c'est très l'humain chez nous, autant pour nos clients que pour l'équipe, c'est extrêmement important. Et si chaque personne n'est pas épanouie dans sa vie en général, l'équipe ne pourra pas l'être. Le projet ne pourra pas l'être. Tu vois, là, on a fait des rendez-vous individuels comme on fait tous les 3 mois.
Donc, un rendez-vous individuel avec chaque personne de la team pendant une heure et demie.
Chaque personne, ouais.
Mais ça, tu ne fais pas toutes les semaines, du coup?
Alors non. Nous, toutes les semaines, c'est vraiment donc, cette fameuse réunion qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, où également, avec Thibaut, on donne aussi les news de la semaine. Après, on se voit tous les midis, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps dans les mêmes locaux. Si des fois, on a besoin de faire un point, par exemple, cet après-midi, là, j'ai un point avec les commerciaux pour réfléchir sur une évolution sur la plateforme. On prend une demi-heure et c'est une réunion. Il ne faut pas non plus faire genre, il n'y en a pas. Mais disons qu'on a donné cette info tous les lundis. Il y a une réunion dans l'esprit de chacun. Ils savent qu'il y a cette deadline. Donc à chaque fois, en fait, il y a 4 réunions de coup par mois. La dernière, c'est celle par rapport au mois complet. Donc tu as vraiment semaine, 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 mois complet. Et après, en one-to-one, on a un point tous les trimestres qu'on fait vraiment où on va dans un café, on parle avec eux de tout, mais en toute transparence, tu vois. Et après, on a mis en place une règle entre guillemets entre nous, c'est si quelque chose ne va pas, on n'attend pas et on le dit tout de suite, tu vois. On est vraiment dans... Alors après, ça peut paraître idyllique, hein, j'entends, certains peuvent dire ça, j'entends, tu vois, mais ça marche très bien depuis le début. On s'entend extrêmement bien au niveau humain et derrière, au niveau du management, c'est très très cool du coup de bosser avec eux parce qu'on a tous le même objectif, on sait où on va, ils connaissent la situation de la boîte, autant des dépenses, autant des entrées, autant nos objectifs à court, moyen, long terme. Enfin, tu vois, on est très très transparent parce que ça permet aussi à chaque employé de se positionner, d'avoir la vision, de se dire « Ok, moi, ce qui me motive dans tout ce qu'ils ont dit, ça va être ça, donc ouais, je suis chaud. » Et tu vois, c'est à la fin, c'est un peu comme dans une équipe de... Enfin, c'est ce que je dis, hein, pour moi, on n'est pas forcément une famille. On est une équipe de sport pro. C'est-à-dire qu'on travaille tous dans le même objectif, on est à fond. Après, tu as toujours la limite de respect entre chacun. Mais on est ensemble, on se soutient. S'il y en a un qui a besoin d'aide, je dis n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Là, on a fait un livre blanc et j'ai voulu faire le malin pour tester l'algo de LinkedIn. Et j'ai dit, mettez un commentaire pour avoir le livre blanc. Sauf que je me retrouve avec 800 commentaires envoyés, 800 messages privés envoyés pour qu'ils aient le livre blanc, tu vois, derrière. L'équipe vient m'aider, tu vois. Ils viennent m'aider. Tu vois, c'est des trucs où on soutient vraiment sur chaque action. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien.
Du coup, le meeting de 30 minutes, c'est en fait le seul meeting qui est récurrent. Et du coup, si quelqu'un bosse sur un projet, ils ont des questions, ils ne sont pas sûrs, ils ont besoin de ton input, en fait, c'est à la demande.
Oui, complètement. Alors, pour la partie dev, parce que du coup, mon associé est CTO, pour la partie dev, il y a Thibaut qui va gérer. Donc, ils sont 3 au total avec Thibaut. Pour le reste, du coup, moi, je suis là et on est dans les mêmes bureaux, en fait, parce qu'on a créé, entre guillemets, des bureaux par pôle. Donc, oui, ils peuvent me demander. On a Slack, en physique, on se parle. On se parle beaucoup, on communique beaucoup. Hein. C'est juste vraiment que, il faut, dans ma tête, mais ça marche aussi pour tout. Hein, je trouve qu'un être humain a besoin, des fois, d'avoir des rendez-vous. a besoin, c'est pour que ce soit très clair, que tu vois, nous, sur notre blog, il y a des articles tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis. Et depuis qu'on a fixé ces rendez-vous-là, on voit des pics, en fait, à chaque fois d'audience sur le blog à ces moments-là.
Parce que les gens viennent voir spécifiquement pour le nouvel article ?
C'est ça, exactement. Alors que si on disait, bah oui, chaque semaine, on va publier des nouveaux articles, mais on ne sait pas quand. Bah, du coup, il n'y a pas de rendez-vous, donc les gens vont pas forcément y aller ou ils vont attendre les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, c'est une logique différente, je trouve. Et ça marche plutôt bien, enfin, en tout cas chez nous. Enfin, je trouve que l'être humain aime bien les rendez-vous, en fait. Enfin, je trouve hein, vraiment, qu'importe la situation.
Si aujourd'hui, tu fais rentrer une nouvelle personne sur l'équipe, comment est-ce que tu réfléchis au processus de formation ? Bon, ça prend beaucoup de temps de former quelqu'un. Si tu as qu'une demi-heure par semaine, c'est pas dans le meeting de la semaine que tu vas former la personne. Comment tu réfléchis à cette question-là ?
Écoute, ça, c'est quelque chose de très, très, très important chez nous. On a amélioré notre onboarding pour chaque nouvel employé depuis qu'on a des employés, en fait, donc depuis 3 ans. Moi, j'ai une feuille de route, en fait, avant que la personne arrive, le jour où elle arrive, une semaine après qu'elle arrive. Tu vois, qu'elle soit une semaine après qu'elle soit arrivée. Vraiment, avec des choses qu'on améliore. Et d'ailleurs, à la fin de la première semaine, on demande à chacun, stagiaire, employé ou autre, de nous donner un retour franc et sincère sur comment il a vécu sa première semaine, sur comment il a vécu tout le processus de recrutement, parce qu'en fait, ça commence au recrutement. Et je pense que ça commence aussi avec du respect pour ce que je te disais tout à l'heure, à répondre en fait aux candidats à qui on dit non. Il faut leur dire ce nom. Tu vois, il y a besoin d'avoir une réponse. Je trouve ça tellement irrespectueux de ne pas répondre, même si on a 100 candidatures. Oui, ça prend du temps, ok, sauf que derrière, c'est sans humain, en fait, toujours pareil. Et du coup, y a vraiment un onboarding sur lequel on a réfléchi, où avant, pour les rassurer, ils ont toutes les infos nécessaires, on les a eus déjà au téléphone, on les a vus physiquement s'ils sont venus au bureau, on leur a déjà présenté l'équipe, les bureaux, enfin, tu vois, il y a tout ça. Le jour J, petit déj, avec, on a un petit tableau où ça sera marqué, welcome avec le nom de la personne, avec petit jus d'orange, les petits croissants, où on passe un moment tous ensemble en équipe, donc là, on prend déjà du temps. Et après, soit c'est une personne de l'équipe qui va gérer cette personne et donc du coup c'est la personne de l'équipe qui va gérer tout son onboarding sur la semaine, soit c'est moi-même ou Thibaut, enfin ça va dépendre en fait vraiment du rôle, et on va l'accompagner, donc prendre du temps, notamment la première matinée, la première journée même, où on va présenter plus en détail tous les outils, même si on lui en a parlé avant. Par contre, ce qui est très important, c'est vraiment qu'il se sente chez lui dès le début. Donc quand un nouvel arrivant vient chez Swelo, il a déjà son ordi, son carnet, ses stickers, des stylos, un petit mot, un petit post-it où je marque bienvenue, le petit déj, tu vois, le premier repas avec l'équipe, parce qu'on mange tous ensemble généralement le midi, et après chacun dans l'équipe connaît son rôle. Alors ça s'est fait naturellement, on n'a rien demandé. Mais dès qu'il y a un nouveau, il y a toujours voilà, de l'aide, de l'entraide. Eh ben, comment tu vas ? Puis on va après parler beaucoup. Et au fil des jours, bah, ça fait que la personne se sent bien, qu'il y a un bon onboarding, je l'espère. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Mais ça, ça a été un gros travail. Et pour une raison aussi qui est très importante, c'est que si demain, là pour l'instant, tu sais, on recrute une personne par une personne. Si demain, tout ce qui doit se passe, et je l'espère, on va peut-être recruter plusieurs personnes en même temps. Et du coup, ça va devenir beaucoup plus complexe, en fait, parce que bah, nous, aujourd'hui, on n'est que 9 et on ne va pas pouvoir recruter, tu vois, 15 personnes et s'occuper de 15 personnes en même temps. Et il faut, du coup, que cet onboarding soit déjà très solide pour justement ne pas se poser de questions et que ça aille directement, tu vois, où il faut. C'est-à-dire que moi, au niveau du social, je sais les documents que je dois demander, je les envoie directement. Enfin, tu vois, ce genre de trucs.
Sur ton expérience, entre le moment où la personne va commencer, le moment où tu sens, ok, cette personne, elle est opérationnelle, elle est autonome, elle connaît son truc, elle a tout calé, ça prend environ combien de temps pour que la personne soit vraiment set-up ?
Ça va dépendre du profil, mais c'est extrêmement rapide. Je dirais en une semaine, la personne peut déjà commencer à bosser. Après, là, ce que je remarque, c'est au niveau des commerciaux, quand on en embauche un ou quand il y a un nouveau stagiaire à ce poste-là, les premières ventes arrivent au bout d'un mois, un mois et demi. Mais ce qui est excellent. C'est excellent. Enfin, je veux dire, on m'a toujours dit les commerciaux, c'est compliqué. C'est vrai que pour trouver les bonnes personnes, c'est compliqué, mais dès que tu as les bonnes personnes, ça envoie du bois. Donc après, sur tous les autres postes, je dirais ouais, une semaine. Une petite semaine où elle est autonome, la personne est autonome, ouais, une semaine.
Qu'est-ce qui fait un bon commercial, du coup, pour Swelo ?
Bienveillant, déjà. Bienveillant auprès de l'équipe, bienveillant auprès des choix de Thibaut et moi, et bienveillant auprès des clients, c'est extrêmement important. Serviable également quand un client leur demande des choses, voilà, faut qu'ils soient aussi rigoureux, hein, tu vois, dans leur réponse. Puis je trouve que c'est important qu'ils aient vraiment notre mentalité à tous, mais de toute façon, enfin, le recrutement c'est aussi beaucoup sur l'humain, on déteste la lettre de motivation, enfin après c'est plein de choses sur le recrutement, mais en fait Nos commerciaux ont la mentalité swello, entre guillemets, ont c'est déjà ses qualités, toutes ses qualités. Et c'est important parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va passer quand ils vont faire une présentation avec le client. Donc vraiment, pour moi, les qualités, ouais, c'est vraiment être à l'écoute, être rigoureux parce que bah, derrière, on envoie un récapitulatif du rendez-vous avec toutes les données. Vraiment prendre soin d'eux. Tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le truc qui peut faire la différence. C'est écouter leurs besoins et voir même des fois, je sais que c'est pas notre avantage, mais si l'outil ne répond pas aux besoins du client, savoir dire notre outil ne répond pas à votre besoin, nous pouvons vous renvoyer vers un autre outil qui peut répondre à votre besoin. Et du coup, dans la même lignée, savoir tu vois, conseiller, parce qu'on se dit que si on apporte de la valeur au client, enfin au prospect, à ce moment-là, il se rappellera de nous à un moment donné. Tu vois. Donc ouais, c'est tout ce genre de choses qui fait que pour moi, c'est un bon commercial. Au contraire d'autres expériences qu'on a pu avoir où, du coup, si tu n'as pas ces qualités-là, ça se passe moins bien, quoi.
Il y a des gens que tu avais pris et que tu as dû virer sur un poste de commercial ?
Ouais, c'est le poste où il y a eu le plus de turnover chez nous. Bon, après, on en a assez peu de turnover, hein, pour dire la vérité. Mais c'est vrai qu'on a eu, aujourd'hui, à ce poste-là, on a eu... aujourd'hui, ils sont trois, mais il y avait eu deux autres commerciaux avant. Il y en a un qui est resté, c'était pendant la période d'essai, donc il restait deux semaines. Et ça matchait pas, mais humainement, pour le coup. Et un autre qui est resté un an et demi. Et puis après, on a décidé de se séparer ensemble, hein, d'un commun accord. Ce qui est sympa, et ça, c'est grâce au stage. Nous, aujourd'hui, généralement, les stagiaires, tu vois, sur les cinq stagiaires qu'on a eus, on en a embauché trois. L'idée, c'est que si on les prend en stage, c'est pour aller plus loin derrière, si on le peut et si c'est nécessaire. Et donc, ça permet pas mal de voir déjà la mentalité de la personne. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu un commercial qui est parti, il y a eu une bascule au milieu puisqu'il y avait quand même quelqu'un en stage qui était là pour l'épauler et qu'on a recruté derrière. Donc oui, il y a eu du turnover. Après, c'est rien de grave et je pense que c'est des choix des fois qu'il faut faire ensemble, tu vois, mais qui sont nécessaires à la fois pour la personne et à la fois pour la boîte.
Et du coup, quand tu recrutes un commercial, tu vas principalement te baser sur ses qualités de personnalité, de quelqu'un qui va être bienveillant, qui va être serviable, plus que finalement sur de l'expérience. Il faut que la personne ait fait ça pendant 3 ans dans une boîte similaire. Ça t'intéresse moins ?
Je vais dire plutôt... Oui, après, l'expérience... en fait, c'est peut-être pas l'expérience, moi, qui... L'expérience, c'est très important pour nous. Ce qui va être peut-être moins important, mais qu'on regarde quand même, c'est plutôt les diplômes. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la boîte, on a des bac plus 5, on a des gens qui n'ont pas le bac. On a, moi, par exemple, je suis en bac plus 2. Qu'importe le diplôme, soit t'es bon, soit tu l'es pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu dur ce que je peux dire, mais soit t'es bon, soit tu l'es pas, autant humainement qu'au niveau des compétences.
Du coup, pourquoi le regarder, du coup ? Ça t'apprend quoi, le diplôme, sur une personne ?
Moi, juste le diplôme, c'est voir est-ce que avant t'as fait, c'est juste une information que je trouve intéressante de savoir par rapport à ce que t'as fait avant. Est-ce que t'étais cuisinier et du jour au lendemain tu te dis j'ai eu un déclic, mais moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi t'as eu ce déclic, ou alors est-ce que depuis le début c'est ta vocation et voilà quoi. C'est vraiment plus pour comprendre la réflexion de la personne et le pourquoi, tu vois, que se dire elle a fait des diplômes donc elle l'a. Alors après. Quand les commerciaux, je prends l'exemple, on fait une école de commerce, c'est sûr que c'est très intéressant aussi d'avoir ce type de profil, mais je pense que c'est bien d'avoir les deux, tu vois. D'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais pas forcément de diplôme, mais ça apporte énormément l'expérience. Moi, je le vois avec les gens qui ont de l'expérience chez nous, à chaque fois, il fait mouche sur des sujets parce qu'il a cette expérience, quoi. Et quand il y a des diplômes, je trouve que c'est également utile parce que ça apporte des choses peut-être plus théoriques que nous, on n'a pas parce qu'on a commencé comme ça et qu'on s'est dit, allez, vas-y, on y va, ok, il faut qu'on vende, alors on va creuser, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment l'alliance de tout ça qui fait que ça donne ce qu'est Swello aujourd'hui. Mais après, sur des recrutements en général, on va regarder les diplômes. Oui, mais le plus important, c'est l'humain. Alors ça, par contre, c'est radical parce que des fois, on a lu des CV qui sont géniaux et humainement, ça a du mal. Et en plus, une personne peut te casser l'ambiance dans l'équipe. Hein. Qu'on soit très, très sincère, c'est possible ça. Donc, c'est très important. Donc, on regarde l'humain et également les compétences opérationnelles, quoi. Parce qu'à chaque fois, il y a un test technique. Dans notre module de recrutement, il y a un test technique, etc. Enfin, il faut vraiment que tout soit aligné. Alors après, c'est compliqué du coup de trouver les bons candidats, les bonnes personnes. Mais pour l'instant, on y est arrivé.
Dans une interview que tu avais faite, tu mentionnais deux entreprises, des grosses boîtes qui étaient très efficaces sur les réseaux sociaux. C'était Netflix et Decathlon. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus que ce que fait bien Netflix et comment est-ce que Decathlon avait géré cette situation dans laquelle il s'était retrouvé ?
Oui, effectivement. Alors, je sais plus si c'est pour ça, pour Decathlon, mais je vais quand même en parler. Le CM de Decathlon est extrêmement fort, je trouve, par rapport au... Enfin, notamment, là, il y avait eu une grosse polémique par rapport à un produit qu'ils avaient sorti. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il a su avoir les mots justes pour un sujet qui était très polémique, puisque c'était lié à la religion, il me semble, par rapport à un produit qu'ils avaient sorti. Et en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Enfin, cette polémique n'avait pas lieu d'être. Et je trouve qu'il a gardé son sang-froid, gardé son calme. D'ailleurs, il a été reconnu par toute la profession au niveau des CM, des social media managers. Il a été remercié, applaudi, entre guillemets, sur les groupes de CM. On en a beaucoup parlé. Parce qu'il a su garder son calme, il a su mettre les mots justes aux bons endroits, répondre aux bonnes personnes et pas forcément à toutes les personnes qui souhaitaient qu'en fait, ils répondent de manière énervée, tu vois. Et je trouve que bah, là, alors c'est plus vraiment du community management, hein, gérer la communauté. Je trouve le CM a été très, très, très fort. Avec vraiment de la bienveillance et les mots justes dans un sujet sur un sujet qui n'était pas facile.
Quand tu dis répondre aux bonnes personnes, tu veux dire faire le tri entre des gens qui ont une vraie douleur, un vrai besoin versus des gens qui sont des trolls. Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là?
Exact, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on va parler de Twitter parce que c'était sur Twitter. Hein. On connaît Twitter. Moi, c'est mon réseau social favori. Twitter, bon, j'aime les autres également, mais vraiment Twitter, c'est mon préféré. Sur Twitter, tu vas trouver des gens qui vont poser des vraies questions. Il y a les gens qui sont pour, mais bon, ceux-là, du coup, ça pose pas de problème. Dans les gens qui sont contre quelque chose, tu vas avoir les gens qui vont poser des vraies questions, tu vois, qui, sans animosité, mais qui posent la vraie question, genre pourquoi vous faites ça ou telle chose. Tu vas avoir également les gens qui sont là que pour troller, qui sont là que pour, mettons les mots, pour défoncer la marque, pour embêter, en fait. Et faut faire, moi je pense, hein, quand on fait du community management, faut faire la part des choses, tu vois. Je donne un exemple concret. Moi, j'ai eu mon premier hater il y a quelques années, alors que c'était pas. Mais j'avais fait une conférence, pareil. Donc c'était à Nantes en plus. Ça me fait penser à ça, où j'avais fait une conférence et je parlais de Swelo, quoi. Où j'avais monté la boîte à 15 ans et tout. Et quelqu'un a repris mon tweet en mode si à 15 ans t'es pas dans la Startup Nation et t'as pas monté ta boîte et levé 500 000 euros, tu vaux rien. Enfin, tu vois, c'était un peu de second degré, mais pas très positif. Bah en fait, ça m'a rien fait, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui dit, bah, en fait, je comprends pas pourquoi vous vous mettez en avant. Est-ce que c'est nécessaire de se mettre en avant quand on a 15 ans, etc. Enfin, tu vois, des vraies questions de fond où tu dis, bah, oui, on peut engager une discussion et répondre et donner nos arguments respectifs parce que bah, c'est normal qu'on soit pas d'accord. On est des humains, on a chacun nos avis. Et des gens qui sont juste là pour troller. Et quand tu les regardes, tu fais, mais en fait, mec, ce que tu dis, de un, ça me bouge pas, mais surtout, ça sert à rien, quoi. Enfin, en fait, t'es là juste pour ça, quoi. Tu vois, voilà. Et c'est vrai que Decathlon, le CM de Decathlon dans cette situation avait extrêmement bien géré tous ces cas-là. Et je l'ai trouvé vraiment fort. Et après, par rapport à Netflix, là, c'est plus sur de la com pure et dure, en fait. Hein. Je trouve qu'ils sont aussi assez forts. La difficulté de Netflix, c'est qu'ils ont une communauté qui est extrêmement large. Tu vois, tu peux dire avec certaines marques, tu as des communautés qui sont très définies, avec un âge très défini, etc. Netflix, en fait, ça touche tout le monde, quoi. Parce que tu as autant des films, tu as des animés, que tu as des films émotions, des films qui font peur, et ça touche vraiment tous les âges, tous les styles de personnes. Enfin, vraiment, voilà, leur seul point commun, j'ai envie de dire, à toutes ces personnes-là, c'est qu'elles regardent quelque chose sur Netflix à la demande, etc. Mais c'est vrai que des fois, Netflix, ils ont un ton un peu très décontracté, ça va plus ou moins plaire aussi à d'autres personnes. Il y a aussi des fois des sujets polémiques qui sont pas forcément nécessaires, encore une fois. D'autres, oui, mais d'autres, non. Et moi, ce que j'aime bien chez Netflix, c'est qu'ils ont toujours le petit tweet qui fait rire, toujours la petite réponse intéressante. Et ils ont compris qu'il fallait prendre des CM pour vraiment passer du temps à répondre aux gens. Et du coup, tu as cette relation qui commence à se créer où on n'appelle même plus Netflix, en fait, on l'appelle Néné. Tu vois, c'est ce genre de truc où il y avait des surnoms, tu vois. Et à la fois, je trouve que les CM de Netflix sont très courageux parce que les gens sont d'une impatience pour les films, etc. Ils ont beau leur dire ça sortira dans X mois. T'as toujours quelqu'un qui va commenter dans un tweet qui n'a rien à voir. Ouais, ça sort quand, au fait? Et je me souviens d'ailleurs, il y a eu une polémique par rapport à ça où ils avaient sorti une série de vidéos, je crois, sur le harcèlement sexuel, il me semble. En tout cas, c'était un sujet très important. Enfin, je trouvais les vidéos, en plus, c'était très bien réalisé. C'était 5 minutes que sur Twitter, enfin, sur les réseaux sociaux. Et t'avais des gens qui commentaient, oui, au fait, il sort quand la saison 5 de ça et tout. Et je sais que le CM de Netflix était un peu énervé à ce moment-là, tu vois, et leur a répondu, mais les mecs, enfin. On parle d'un truc hyper important. Vous, ce qui vous importe aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que la saison 3 de La Casa des Papel, elle va sortir, quoi. Et je sais qu'il y a eu une polémique à cause de ça parce que ces gens se sont énervés, du coup. Ils disent oui, mais ça va, redescend, machin. Bah, en fait, non, prends les vrais problèmes. Enfin, tu vois, voilà. Et c'est vrai qu'ils ont du courage à ce moment-là. Ils ont du courage.
Ouais, parce que là, moi, je fais, va chercher sur Google, mon gars, parce que là, t'abuses, c'est pas possible. Effectivement, moi, je pense que j'ai pas forcément la patience d'être un très bon CM, hein. Je dois l'avouer. Je pense que je l'ai pas en moi, tu vois.
Ouais, mais moi non plus, mais c'est pour ça que ouais. Je fais un outil pour les CM ouais. Et non pas que je suis CM. Tu vois, Non, et puis il y a plein d'autres raisons également, hein. C'est pas que pour ça, mais c'est aussi ouais. Une des raisons.
Ouais carrément. À mon avis, ça fait partie de ce job où c'est pas pour tout le monde. Il faut la personnalité pour, je pense.
Ouais, complètement.
Jonathan, il y a trois questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Aïe, aïe, aïe. Moi, je lis pas trop.
Ok. C'est pas grave. Tu peux dire... Si c'est pas un livre, ça peut être ce que tu veux. Un documentaire, un podcast, un animé, un manga, ce que tu veux.
Deux choses. Une première chose, moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est il faut parler avec beaucoup de personnes de votre entourage parce que l'entourage est extrêmement important quand on est entrepreneur, n'importe quel métier en fait, dans n'importe quel métier. Donc je lis pas forcément de livres, mais je m'inspire énormément des autres, donc ça peut être ma famille, ma copine, mes mentors, nos investisseurs, l'équipe et également les autres boîtes. Ça, c'est quelque chose que m'a appris donc Lancelot, qui avait commencé solo avec moi, souviens-toi, au tout début, en 2010, et qui maintenant a créé donc Ulysse.travel. Il m'a dit quelque chose un jour, c'est dès que tu as une problématique, va avoir 10 boîtes qui t'inspirent pour savoir comment elles gèrent cette problématique. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 6 mois, je dirais, et c'est tellement puissant parce qu'on récolte mais de nombreux
donc
avis.
Tu vas sur leur site et tu vas checker ce qu'ils font. Ou tu leur parles directement.
Non, je vais voir la personne. On va voir la personne. On lui dit, voilà, est-ce que tu serais prêt à venir une heure avec nous ? On va te poser plein de questions. Okay. Donc, soit c'est un meeting global avec tout le monde et on le fait une fois par mois. Ça s'appelle le Solo Monthly Meeting. Enfin, on a dû lui trouver un petit nom, mais voilà. Okay. Soit c'est Paul par Paul, tu vois, le support qui veut voir et qui veut parler à quelqu'un qui fait que du support ou le marketing, etc., etc. Et ça, c'est tellement puissant. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bon, après, j'ai beaucoup de contenu à recommander, mais je trouve que c'est bien de connaître son métier parfaitement, tous les avantages. Enfin, je pense notamment là aux réseaux sociaux dans mon cas. Mais c'est également bien de savoir les dangers. Et je recommande du coup sur Arte des vidéos qui s'appellent Dopamine et qui prennent l'exemple à chaque fois de chaque réseau social. Je crois qu'ils l'ont fait avec Insta, avec Facebook. Je crois qu'ils l'ont fait avec Tinder. Et qui en fait t'expliquent comment fonctionnent les réseaux sociaux pour te faire rester le plus longtemps possible dessus. Et c'est vrai que pour avoir un avis éclairé sur son écosystème, sa boîte et tout ça... Même si c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous font vivre, hein, tu vois, je ne vais pas le nier, c'est bien de savoir les dangers. Et Dopamine, ouais, c'est des vidéos de 5 à 7 minutes et c'est tellement bien expliqué et ça t'apporte beaucoup d'éléments pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux.
La deuxième question que j'ai un petit peu modifiée pour toi, c'est si tu pouvais revenir en arrière et parler à ton toi-même de 15 ans, qu'est-ce que ce mec-là il aurait besoin d'entendre ?
Je pense juste fais ce que tu as envie de faire. Te pose aucune question. Tu vois, la question, alors qui est un peu différente, effectivement, mais la question qu'on me pose des fois, c'est voilà, si tu revenais en arrière, quelle erreur tu aurais évité, tu vois. En fait, aucune erreur. Mais là, c'est pareil. Je me serais juste dit, reste sûr de toi, tu vois. Enfin, c'est rigolo, mais je veux
dire.
Parce
qu'à l'époque, t'étais pas tout à fait sûr de toi et t'avais besoin de l'entendre.
Si. Justement, j'étais déjà persuadé que le projet allait être bien. Alors après, c'était juste pas la même finalité parce qu'au début, c'était que pour mon CV. Mais je croyais, enfin, je crois toujours autant au projet, mais je croyais tellement au projet et je crois encore aussi tellement aujourd'hui que bah, je dirais, ouais, bah, en fait, cool, quoi. Enfin, continue, reste vraiment sûr de toi et fais le projet. Tente tout ce que tu veux tenter et puis tu verras si ça fonctionne. Et au pire, c'est toujours le même discours. Au pire, c'est pas grave, tu rates. Mais en fait, du coup, bah, pour répondre, j'aurais pas grand chose à dire, sauf, tu prends les bonnes décisions, tu fais les bons choix, quoi.
T'aurais pas essayé de monétiser plus tôt ?
Non, franchement, j'aurais rien changé. Enfin, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais même les erreurs. Parce que je me dis qu'on ne serait pas arrivé là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas fait certaines erreurs. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de l'exemple de la mauvaise communication qu'on a faite pour les tweets qu'on avait bloqués quand c'était passé en freemium. Si on n'avait pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, on serait rétamé sur un autre sujet, sur une autre annonce, tu vois. Donc non, moi, j'aurais rien changé, juste, mais c'est aussi le message que je peux passer pour tous, en fait. Faut croire en soi. Et j'ai d'ailleurs une phrase de Tony Gaskins qui est « Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. » Et du coup, ça a été une phrase qui m'a pas mal porté jusqu'au moment où j'ai eu des employés, parce que du coup, j'ai pas envie qu'ils l'apprennent pour partir et pour monter. Non, je rigole, parce que en plus, on les soutient énormément dans cette démarche-là. Si quelqu'un veut partir et se sent pas bien parce qu'il veut monter sa boîte ou autre, on va être là pour les pousser. Donc c'est faux, mais cette phrase-là, en tout cas, moi, m'a beaucoup porté. Et ouais, j'aurais rien changé à tout ce qu'on a vécu.
Du coup, tu as un peu snipé ma troisième question, qui est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient à l'esprit ? Donc, est-ce que c'est celle-ci que tu voudrais donner, cette même citation, ou est-ce que tu en as une autre ? Mais ça peut être la même. Ouais. Si c'est la même, on peut le rester là-dessus. Moi, ça me va très bien. Mais effectivement, t'as anticipé la question suivante. Là, tu m'as fait un mouvement de kung-fu d'interview.
Non, y a pas de souci. Mais ouais, exactement. Non, ce serait celle-ci. Ce serait celle-ci parce que moi, elle m'a apporté quand même pendant pas mal d'années. Elle est même affichée au bureau, en fait. Pour te dire, quand on a fait les affiches, on a fait 8 affiches. Une qui fait écho à chaque personne dans la boîte. Par rapport à une phrase qu'il a pu dire ou qu'elle a pu dire ou tu vois enfin quelque chose et moi ça a été une de mes affiches parce que c'est la citation qui m'a porté pendant plusieurs années quoi.
Merci Jonathan pour être venu sur le podcast pour ton partage.
Stan, merci beaucoup à toi aussi et puis bravo pour tout ce que tu fais, pour tous les épisodes, c'est vraiment génial de pouvoir s'enrichir, on revient sur ça à chaque fois, mais voilà, de s'enrichir aussi des autres et merci beaucoup pour l'opportunité et pour ce que tu fais.
Je pense d'ailleurs qu'on peut, juste avant de terminer pour les gens, mentionner le nom de ton propre podcast que tu as lancé. Comme ça, les gens peuvent aller voir s'ils ont envie d'en entendre plus sur toi.
Écoute, c'est extrêmement gentil. Ça s'appelle No Jet Lag. C'est dispo partout, hein, Spotify, iTunes, SoundCloud. Et c'est un peu un mix entre du pro, du perso, des interviews. C'est vraiment l'aventure chez Swello, mais de mon point de vue et aussi de vraiment tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, savoir notre processus de recrutement. Mais également, j'ai fait un podcast avec ma copine parce que on interviewe beaucoup les entrepreneurs, mais jamais ceux qui les soutiennent. Et c'est important de savoir en fait aussi comment l'entourage perçoit ça. Et après, il y a également des interviews. Et je vous encourage à écouter les 5 interviews qu'il y a aujourd'hui entre une artiste pop, un animateur de Skyrock ou le VP de Warner Bros. Entertainment. On apprend toujours des autres. Et ouais, mais c'est très gentil en tout cas de l'avoir mentionné. Très cool.
Excellent. Ça s'appelle No Jet Lag. C'est un peu partout sur les plateformes de podcast, les gens peuvent aller le retrouver. Et puis bien sûr, tous les liens, comme toujours, vers Swello, vers toutes les ressources qu'on mentionnait, seront présents dans la description de l'épisode. Merci Jonathan et à bientôt.
Merci à toi, salut.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous aimez le podcast Marketing Mania, il y a une chose que vous pouvez faire pour le soutenir, c'est de laisser une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. Bien sûr, iTunes reste la plateforme la plus populaire, mais utilisez celle que vous utilisez de manière générale. Et puis une dernière chose, avant de vous laisser, c'est que récemment j'envoie une newsletter tous les lundis qui s'appelle le mix du lundi, dans lequel je partage une analyse psychologique que j'ai faite sur la semaine. Souvent c'est ce genre de sujet que j'aurais pu faire dans une vidéo, mais c'était trop petit pour une vidéo où j'ai pas eu le temps de faire la vidéo en question. Donc c'est des sujets, j'avais toujours plein d'idées de sujets dont je voulais parler dans des vidéos. J'ai une liste, j'ai un Trello de vidéos qui doit avoir probablement plus de 100 idées de vidéos que je n'ai jamais faites, certaines qui sont d'ailleurs totalement périmées. Il y avait des idées que je trouvais géniales en 2017 que j'ai toujours pas faites. Donc ce genre d'idées, j'aime bien aujourd'hui les faire de manière rapide dans un email le lundi qui s'appelle le mix du lundi, pour recevoir le mix du lundi et avoir ce petit shot de Marketing Mania chaque matin, ou plutôt chaque lundi matin. Rendez-vous sur marketingmania.fr/mix. C'est marketingmania.fr/mix. Vous recevrez un email chaque lundi. Bien sûr, si ça vous plaît pas, si ça vous embête, si vous en avez marre, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Il n'y a aucun engagement à ce niveau-là. C'est vraiment du contenu en plus pour vous, les amis auditeurs du podcast Marketing Mania. Sur ce, je vous remercie d'avoir été à la fin de la fin de la fin de mon appel à l'action et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.